Voilà, je crois que c'est important. Ce qu'on va voir ce soir, pour la plupart, nous, je pense que nous le savons, mais je pense que c'est bien de remettre ça devant nos yeux et qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas différents sons de cloche. On ne peut pas, au niveau du salut, avoir différents sons de cloche. Les uns pensent que, les autres disent que, et puis moi je pense que. Non, je crois que c'est important, surtout au niveau de notre éternité, parce que c'est de ça dont il s'agit, je crois qu'il faut être au clair. Voyez? Il y a beaucoup de gens qui se disent croyants, enfants de Dieu, chrétiens. Ok. Le mieux, c'est de regarder ce que dit le Seigneur, voilà, dans sa parole. Et ce soir, c'est ce que je voudrais faire, une manière, on va essayer d'être simple, mais pour pas être dans l'ambiguïté, dans le flou, un petit peu artistique, là, sauvé, pas sauvé, on lui appartient, on lui appartient pas, on ne sait pas trop finalement. Je voudrais qu'on regarde certaines choses ce soir parce que ça me semble important. Alors regardez, on va lire deux versets en introduction. D'abord, une parole de l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul dit ceci, donc il s'adresse à ce jeune serviteur de Dieu, mais il s'adresse aussi à nous. Je vais juste prendre ce qui m'intéresse. Paul dit ceci: néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Ça, c'est important. Voyez, le solide fondement posé par Dieu, pas par un homme, hein, subsiste. Et ces paroles qui lui servent de sceau sont celles-ci: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voyez? Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc on voit déjà ici, premier verset, c'est clair, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et on va rajouter un autre verset qui est une parole de Jésus. Alors, elle est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 14, c'est très court. Mais Jésus, un petit peu, j'allais dire, va dans le même sens, et c'est normal, que l'apôtre Paul, ou c'est plutôt l'apôtre Paul qui va dans le même sens que Jésus, quand il dit ceci: je connais mes brebis. Vous voyez? Je connais mes brebis. Et c'est réciproque, ben normalement, hein, et elles me connaissent. Voyez? Donc, on voit au travers de ces deux versets, si je résume un petit peu, que quelque part, pour le Seigneur, il ne peut pas y avoir tromperie sur la marchandise. Hein. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Hein. Il y a pas d'erreur possible chez le Seigneur. Je vais le dire de cette façon, personne ne se retrouvera dans le ciel par hasard. Vous voyez, il n'y a pas quelqu'un qui va se réveiller dans le ciel. Oh, ben tiens, je suis dans le ciel. Ben, franchement, je ne pensais pas y être. Hein, parce que, vous voyez, non, non. Vous voyez, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et je crois que c'est important que, quelque part, on formalise ces choses pour pas être dans l'ambiguïté, parce que notre éternité, c'est trop important. C'est un sujet tellement important. Il ne faut pas être dans le flou, on ne peut pas être dans le vague, on ne peut pas être là, peut-être qu'on verra bien, je ne sais pas trop. Vous voyez, il ne faut pas être dans l'illusion. Et je pense à ces paroles de Jésus, on les connaît: ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc on voit quand même que c'est un sujet sérieux. Voyez? Alors, il y a un texte très intéressant dans l'Ancien Testament, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire des parallèles. Il y a un texte très intéressant, c'est ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ça a été quelque chose d'assez grandiose, puisque. On estime à peu près, entre tous, hein, entre les femmes, les enfants, les hommes qui sont sortis, ça faisait environ, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais 1 million de personnes. Ça fait quand même pas rien. Ce n'est pas 3 ou 4, ce n'est pas quelques centaines, c'est environ 1 million de personnes qui sont sorties. Et là, y a, dans cette sortie d'Égypte, il y a un détail très intéressant qui nous est donné, on va l'afficher dans le livre de l'Exode, regardez. Et vous allez comprendre où je vais en venir. Il est dit ceci, Exode 12, versets 37 et 38, « Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. » Vous voyez, quand je dis 1 million, je suis peut-être même court, parce que 600 000 hommes sans les enfants, et on ne parle même pas des femmes. Vous voyez, donc peut-être c'était même plus d'1 million. Vous voyez, et il est dit, regardez, alors les enfants d'Israël sont sortis, ok, mais il est dit aussi, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Donc si on rajoute cela en plus, vous voyez que ça faisait un nombre considérable. Mais vous avez noté que verset 37, je vais te faire travailler, tu peux me le remettre. Allez, il est question des enfants d'Israël, mais verset 38, et là tu me le remets, il est question d'une multitude de gens de toute espèce qui sont montés avec eux. Autrement dit, voilà des gens qui étaient là, qui ont suivi le mouvement, mais qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Vous voyez? Ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël. Ils étaient là, ils étaient au milieu, mais le Seigneur, par sa parole, fait bien le distinguo entre les deux. Il y avait ceux qui faisaient partie du peuple et il y a ceux qui étaient là, mais qui ne faisaient pas partie du peuple. Et c'est très clair, vous voyez, Dieu faisait la différence entre les deux. Voyez. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand vous allez un petit peu plus loin, vous savez qu'on se rend compte que dans le livre des Nombres, les premiers problèmes au milieu du peuple d'Israël, ils ont commencé par qui? Ils ont commencé par ces gens-là. Regardez, Nombres chapitre 11, verset 4, le ramassis de gens qui se trouvent... Il valait mieux que ce soit la Bible qui le dise que moi, hein, parce que le ramassis, je ne sais pas comment il faut prendre ça, voyez, mais le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise, et même ça a infecté les autres, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qu'il nous donnera de la viande à manger. Donc vous voyez, Dieu fait bien le distinguo entre son peuple, enfin dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, et les autres. Vous voyez, et ça nous montre une chose, c'est que quelque part, avec Dieu, on peut pas se contenter de suivre le mouvement. Parce que ces gens-là, le ramassis, cette multitude de gens qui sont partis avec le peuple d'Israël, ils ont suivi le mouvement. Et le désir du Seigneur, c'est pas simplement qu'on soit des suiveurs. Parce que c'est pas ça, appartenir au Seigneur. C'est pas être un suiveur. On peut pas simplement suivre le mouvement. Le désir du Seigneur, c'est pas qu'on soit non plus un adhérent. Ou, je vais employer un mot, un sympathisant. Vous voyez, c'est pas ça, appartenir au Seigneur. Et béni soit Dieu, on vient à l'église, c'est bien, on entend l'évangile. Et tant mieux, ça commence par là. On vient, on entend, peut-être même on connaît les histoires, mais c'est pas pour autant que ça fait de nous quelqu'un de sauvé. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui appartient au Seigneur. Il faut plus que ça. Et on l'a lu tout à l'heure, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas des gens qui simplement suivent le mouvement ou se contentent de suivre le mouvement. Ce n'est pas des gens qui se contentent d'être des adhérents ou peut-être des sympathisants. Il faut plus que ça. Appartenir au Seigneur, c'est plus que ça. Et je voudrais justement qu'on regarde au travers d'un texte, quelque part, ce que c'est que appartenir au Seigneur. Alors, on va faire un parallèle avec un texte de l'Ancien Testament. Il y a des textes comme ça, on ne lit pas beaucoup. Vous voyez, on passe très vite, les pages sont collées en général à cet endroit-là, parce que bon, on dit bon, allez hop. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même très intéressant. Et il y a un passage dans l'Exode, on va le mettre, où il est question de, quelque part, je vais le dire de cette façon, la condition qu'il fallait pour faire partie du peuple d'Israël, ou plutôt pour être compté dans le peuple d'Israël lors du dénombrement. Il y avait une condition. Et bien entendu, derrière ça, il y a tout un message. Alors regardez, on va le lire ensemble. Exode 30, du verset 11 au verset 16. Alors ça fait partie de textes que peut-être on ne lit pas souvent. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même assez intéressant, les parallèles qu'on peut faire. Regardez, l'Éternel parla à Moïse et dit, donc c'est Dieu qui parle, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, regardez bien, chacun d'eux, paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. » Afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Regardez, le riche ne paiera pas plus. Et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Et verset 16, « Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. » Alors, évidemment, lu comme ça, on fait... Vous voyez, on se dit, oh là là, c'est un peu raide, mais... Pas tant que ça quand on y réfléchit. Hein, moi, je ne suis pas un grand théologien. Mais enfin, il y a quand même des choses qu'on peut comprendre. On se rend compte que finalement, pour être compté dans le dénombrement du peuple d'Israël, il y avait une condition, si je peux employer ce terme-là. Vous avez noté que, vous l'avez au verset 12, alors je vais te faire travailler. Regardez, verset 12. Chacun d'eux, il fallait que chacun d'eux paie à l'Éternel le rachat de sa personne. Voilà, chacun. Vous noterez déjà, c'est très important, chacun. On ne pouvait pas payer pour le voisin. Vous voyez, ça nous rappelle déjà que les choses de Dieu, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. Je ne peux pas, moi, faire pour les autres ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, je ne peux pas me repentir pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire une démarche vis-à-vis du Seigneur pour quelqu'un d'autre. Non, c'est personnel. Vous voyez, et déjà, ça, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. Mais la condition, elle est celle-ci. Il fallait payer à l'Éternel une certaine somme pour être compté parmi le peuple d'Israël lors du dénombrement. Et là, vous avez tout un message. Vous avez tout un message quand on y réfléchit. C'est que, de la même manière, pour appartenir au Seigneur, pour appartenir au Seigneur, il faut avoir été racheté par le Seigneur. Parce que là, on est dans l'Ancien Testament. Mais quand on va dans le Nouveau Testament, pour appartenir au Seigneur, il faut, pour pouvoir avoir cette certitude de lui appartenir, cette certitude de notre salut, il faut avoir été racheté. Voyez ? Et c'est là que, et c'est pour ça que j'ai fait chanter ces chants avant le message, c'est là que prend tout son sens la croix. Parce que sur la croix, le Seigneur Jésus a payé le prix de notre rachat. Voyez ? Et si dans l'Ancien Testament, il fallait payer le prix du rachat, maintenant que nous sommes sous la grâce, eh bien quelque part, Jésus a payé le prix de notre rachat à notre place sur la croix, et quelque part, pour appartenir au Seigneur, eh bien quelque part, il faut avoir été racheté par lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ayant réalisé ce que Jésus a accompli sur la croix du calvaire pour nous, ayant réalisé son sang qui a été versé pour nous, alors j'ouvre mon cœur, je me repens de mes péchés, et là le Seigneur me rachète. Et c'est là que quelque part, je suis racheté par le Seigneur et que je peux dire, je l'appartiens. Il n'y a pas de rachat sans repentance. Et ça, c'est important. Voyez, aujourd'hui, il y a des fois des choses, on en parle plus trop ou beaucoup moins. Il faut en parler. La repentance, c'est important, c'est nécessaire. D'ailleurs, regardez, juste avant la réunion, je regardais, le premier message que Jésus a prêché, vous lirez ça dans Marc chapitre 1, verset 14, il était simple. Hein, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au moins avec ça, pas besoin de se fatiguer, le message il est clair. Mais ça commence par là. Pour être racheté par le Seigneur, quelque part, il faut se repentir de ses péchés. Quand on s'approche du Seigneur, on réalise ce qu'on est. Hein. Moi, je pense à Pierre qui, quand il va voir la pêche miraculeuse, il va être saisi et puis il va dire « Retire-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Le Seigneur ne lui avait pas parlé de ça, mais c'est vrai que quand on s'approche du Seigneur, on réalise notre état. Vous voyez, c'est comme, je prends souvent cet exemple, mais parce que c'est très parlant, c'est comme la glace de notre pare-brise, là. Vous voyez, on pense toujours qu'elle est propre. Hein. Puis quand vous avez le soleil qui frappe dedans, vous apercevez qu'elle est crado, quoi. Il y a des taches partout. Vous dites, oh là là, pourquoi ? Parce que la lumière vient dessus et vous voyez les taches. Et dans notre vie, c'est pareil. Plus on s'approche de celui qui est le soleil de justice, plus on se rend compte de ce qu'on est. Et quelque part, parce qu'on se rend compte de ce qu'on est, mais on se repent de ses péchés, et à cause du sacrifice de Jésus, alors le Seigneur nous rachète. Le sang de Jésus nous lave, nous pardonne, nous purifie, et on est racheté, vous voyez ? Donc, pour appartenir au Seigneur, il faut avoir été racheté. Et ce texte de l'Ancien Testament, quelque part, nous le montre. Dans l'Ancien Testament, il fallait que chacun paye le prix du rachat. Mais pour nous, aujourd'hui, pour appartenir au Seigneur, il faut avoir accepté d'avoir été racheté par le Seigneur à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire. Et ça, c'est important. Et ça montre pourquoi, jusqu'au bout, le diable a tout fait pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Vous voyez, des fois, nous, on lit ça, descends de la croix, si tu es fils de Dieu, etc. Ça aurait été un miracle de plus. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils auraient cru. Mais derrière ça, on voit le plan de l'ennemi de notre âme. Ce qu'il voulait, ce que Satan voulait, c'est justement que le prix du rachat n'ait pas lieu. Voyez, parce qu'il savait que si Jésus allait jusqu'au bout, si le tout est accompli, était prononcé, alors le rachat de nos âmes, eh bien, pouvait devenir effectif. Et jusqu'au bout, il a empêché Jésus d'aller à la croix, jusqu'au bout, parce qu'il savait que là, c'était sa défaite. Voyez, et c'est pour ça, quelque part, qu'il faut que l'emphase soit mise sur la croix de Jésus, sur l'œuvre qu'il a accomplie, sur la nécessité de se repentir, parce qu'on ne peut pas appartenir au Seigneur si on ne s'est pas repenti de ses péchés. C'est pas possible. Faut se repentir. Voyez, ça c'est une condition sine qua non. Donc première chose qu'on voit ici, il fallait qu'il paye le prix du rachat pour appartenir. Voyez, et de la même manière, j'appartiens au Seigneur parce qu'il m'a racheté. Alléluia. Et quelle grâce. Voyez, finalement marcher avec Dieu, c'est plus que de suivre le mouvement. Hein. C'est plus que ça. C'est plus que de venir à l'église. Voyez, on peut venir à toutes les réunions, on peut être là, on peut entendre, on peut savoir, on peut connaître. Mais à un moment donné, il faut que j'aie été racheté par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut que mes yeux se soient ouverts sur la grâce de Dieu, que là, je réalise, je comprends, et puis je donne mon cœur au Seigneur, je le reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur, et là, le Seigneur me rachète. Alléluia. Et je peux dire que je lui appartiens, vous voyez. Parce que c'est là que je me dis, quand je réfléchis à ça, c'est là que peut-être il y aura des surprises dans le ciel. Je ne sais pas vous, moi j'aime les bonnes surprises, les mauvaises, ça m'intéresse un peu moins, mais... avouez qu'il y a quand même certains textes qui sont là pour nous interpeller. Quand on voit ces gens-là dont il est question, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela, et puis je ne vous connais pas. Oh, vous imaginez ? Imaginez-vous quelqu'un qui peut-être sera venu à l'église, hein, dire ah, peut-être devant le Seigneur, mais toi, j'allais là-bas, tu sais, 31 chemins de Séverin, j'allais de temps en temps, et puis je venais, tout ceci, cela. Et oui, mais tu ne m'appartiens pas. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voyez, je connais mes brebis, va dire Jésus. Et là, on ne me trompera pas. Voyez, on ne me trompera pas. Il faut avoir revêtu l'habit de noces. C'est tellement important. Une deuxième chose, regardez, là aussi, c'est très intéressant dans ce texte-là. J'y reviens. C'est que vous noterez que le prix du rachat, c'était le même pour tous. Vous avez remarqué ? C'était le même pour tous. Ça aussi, c'est très intéressant. Verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. Et puis verset 15, et c'est là ça parle un petit peu plus, le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins. Il n'y avait pas un prix pour l'un, un prix pour l'autre. Non, chacun payait le même prix. Mais ça aussi, il y a tout un message derrière. C'est que quelque part, hein, on est tous sauvés de la même façon. Il n'y a qu'une façon pour appartenir au Seigneur, pour être sauvé. On est racheté par le même prix. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. On va l'afficher. Regardez, j'aime beaucoup ce passage. Regardez 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, où il dit que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Il est dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez ? Là-dessus, c'est pareil pour tout le monde. Pour appartenir au Seigneur, il faut avoir été lavé, purifié, pardonné par le sang de Jésus. C'est le seul prix que le Seigneur agrée. Il n'y en a pas d'autre. Le sang de Jésus, voyez, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ça exclut nos mérites, ça exclut tout ce qu'on peut faire, hein, ça exclut tout ça. Hein, et on voit que le parallèle avec ce texte de l'Ancien Testament, il est fort, il est frappant. On paye le même prix, le riche, le pauvre, mais de la même manière, pour appartenir au Seigneur, c'est le même prix. C'est le prix du sang de Jésus à la croix. On a été racheté de la vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus. Alors peut-être quelqu'un me dira, j'ai remarqué que des fois on dit des choses, nous on se comprend, mais peut-être pour quelqu'un qui découvre, il pourrait se poser la question, mais ça veut dire quoi être lavé par le sang de Jésus ? Nous on a l'habitude de cette expression pour la plupart. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui vient pour la première fois, être lavé par le sang de Jésus. Kézako, ça veut dire quoi ça, concrètement? Alors bien sûr, c'est un langage spirituel, mais ça veut dire tout simplement que quand je me repens de mes péchés, parce que je réalise ce que Jésus a fait à la croix, je réalise que lui l'innocent, il a payé pour des coupables, lui le pur, il a payé pour des impurs. Quand je réalise ça, mais d'une manière spirituelle, le sang de Jésus purifie mon être intérieur, il vient laver mon âme intérieure. D'ailleurs, souvent j'ai entendu cette expression, et c'est parfois ce qu'on a vécu, hein, dire mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai senti comme une libération. Ça a été comme une libération. Il y a comme un poids qui a été enlevé de mon âme, un poids qui a été enlevé de mon cœur. J'ai senti comme quelque chose qui s'est passé. Ben, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le sang de Jésus m'a lavé. Et ce n'est pas forcément quelque chose de visible à l'œil nu. C'est quelque chose de spirituel qui se passe au plus profond de notre âme. Mais combien c'est bon ! Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le poids de notre péché, le poids de notre condamnation est comme extirpé de nous et on se sent comme libre, libéré. Voyez, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe plus, mais ça veut dire que quelque part, il s'est passé quelque chose dans notre âme, au plus profond de nous. Et c'est ça, être lavé par le sang de Jésus. Voyez, ça ne s'explique pas avec des mots, ça se vit quand on reçoit Jésus dans son cœur. « Seigneur, viens à l'intérieur et il nous lave. » Voilà pourquoi encore il faut parler du sang de Jésus. Alors je sais qu'aujourd'hui, des fois, sang de Jésus, bon, on n'en veut plus trop, mais c'est important. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vous voyez, il y a tellement de passages, et entre autres celui-là, là, qui mettent l'accent sur le sang précieux de Jésus qui a été versé pour me laver, pour purifier notre âme, pour que nous puissions lui appartenir. On pourrait faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Rappelez, les plaies d'Égypte, la dernière, la mort des premiers-nés. Quand l'ange exterminateur passait, là où il voyait la marque du sang sur la porte, il passait outre. Voilà. Il fallait qu'il y ait la marque du sang. Voyez, bien sûr, derrière ça, il y a tout un message. Voyez. Celui qui a reçu Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur, mais il y a cette marque sur sa vie, hein, comme quoi je lui appartiens. L'apôtre Paul va dire qu'il nous a marqué d'un sceau. Il y a cette marque qui est là. Voyez, cette marque qui est là. Et qui dit, mais celui-là, il est à moi. Celui-là, il m'appartient. Alléluia. Et je me dis, béni soit Dieu, un jour on arrivera devant le Seigneur. Seigneur, celui-là, je le connais. Celle-là, je la connais. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Waouh, super. Vous voyez ? Mais au préalable, il faut avoir été racheté, lavé par le sang de Jésus. On payait le même prix. Vous voyez ? Et puis, une autre chose qui est très intéressante, et là aussi, quand on pousse un petit peu, on revient dans le texte de l'Exode, là, au verset 16, Regardez, au verset 16, il y a un petit détail là aussi, on pourrait passer très vite, mais tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Alors je vais résumer un petit peu ça. Ça veut dire que l'argent du rachat était comme réinvesti dans l'entretien du tabernacle. Vous voyez? Il était réinvesti dans l'entretien du tabernacle. Et là aussi, il y a tout un message, quelque part. Dans le sens que, à partir du moment où le Seigneur me rachète, à partir du moment où le Seigneur fait de moi son enfant, je lui appartiens, ce n'est pas pour nous dire, bon, ça y est, je t'ai racheté, tu fais ce que tu veux. Ah ben non! C'est pour que maintenant, on réinvestisse notre vie, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Ça s'appelle le service. Ça s'appelle servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Voyez, je ne veux plus vivre comme avant. Je veux comme réinvestir ma vie, mais dans quelque chose qui vaut la peine. Voyez, dans quelque chose de solide. Je veux le faire pour les bonnes raisons. Je veux le faire pour la cause de Christ. Voyez, cet argent, il n'était pas là pour engraisser les sacrificateurs. Voyez, non, 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 il était là. Et il servait à l'entretien du tabernacle. Hein, le tabernacle, c'était là où Dieu se révélait au peuple. Vous voyez, ben, c'est la même chose. Quand Dieu me rachète, quand il me lave par le sang précieux de Jésus, c'est pour qu'après, ma vie devienne entre ses mains un instrument. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant quand on y réfléchit. Donc, vous voyez, au travers de tout ça, au travers d'un texte comme celui-là, sur lequel on pourrait passer très vite, quand on y réfléchit, alors j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, mais quelque part... C'est important de se poser la question, est-ce que j'appartiens au Seigneur? Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Ce n'est pas une question banale, ce n'est pas quelque chose de... Ouais, bon, parce qu'on se rend compte que quand même, il y a un processus. On se rend compte quand même qu'il y a un préalable avant. Est-ce que j'ai été racheté ou pas? Est-ce que quelque part, je suis passé par la croix ou pas? Est-ce que j'ai réalisé ce qui s'est passé sur cette croix du calvaire? Parce que toute la parole est là pour nous ramener à la croix. Toute la parole converge vers la croix pour nous ramener à cet événement qui est le thème central de la parole de Dieu. Tout l'Ancien Testament nous conduit vers ça, nous ramène vers ça. Voyez, pour nous faire réaliser que c'est là qu'a eu lieu le prix de notre rachat. Voyez, et ça, c'est tellement important. D'où la question, est-ce que j'appartiens au Seigneur? Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas une adhésion. Voilà. Ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas être un sympathisant, voyez, ou voyez. Non, non, il faut plus que ça, voyez. Et je crois que, de temps en temps, c'est bon de rappeler ces choses. Voyez, on les sait, bon, plus ou moins, mais de les rappeler parce que, quelque part, elles peuvent parfois passer au second plan, alors que c'est les plus importantes, voyez. C'est le plus important. Et je me rends compte qu'avec ce qui s'est passé à la croix, Dieu ne plaisante pas, voyez. Dieu ne plaisante pas, parce que le prix il a été élevé. Quand on réalise ses pieds, ses mains percées, on a chanté tout à l'heure, le trésor des cieux fut crucifié. Moi, cette parole, chaque fois qu'on la chante, je me dis, ben, le trésor des cieux, il a été crucifié pour moi, pour que mon rachat ait lieu, puisse devenir effectif. Et je me dis, mais on ne peut pas s'amuser avec ça, être léger avec ça. C'est pour ça que quelque part, Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une porte. On ne peut pas passer par à côté, on ne peut pas passer par la fenêtre. Hein. Il faut passer par la porte étroite. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que dans l'Ancien Testament, quand Dieu va donner la construction de l'arche, enfin le plan de la construction de l'arche à Noé, il n'y avait qu'une porte. Hein. Il n'y en a qu'une. Quand vous regardez un petit peu ce bâtiment, ce bateau-là, c'était une construction monumentale avec une seule porte. Ah, aujourd'hui, il y aurait eu la commission de sécurité à l'époque, ça ne passait pas. Hein. Il n'y avait pas les portes de secours avec les trucs de palier, les machins et tout y quanti. Mais quelque part, il y a un message là. Il y a un message, vous voyez. Il n'y a qu'une porte. Pour être racheté, pour être sauvé, pour lui appartenir, il n'y a qu'un chemin. Et on ne peut pas passer outre. Tous ceux qui voudront faire autrement. Eh bien, le jour où ils se présenteront devant le Seigneur, voyez, ça va être difficile. Voyez. Et puis pour nous, les enfants de Dieu, ben quelque part, ça doit nous amener à bénir le Seigneur tous les jours. Seigneur, tu nous as rachetés, tu m'as sauvé. Et tous les jours, je veux réaliser ça, ce qui t'en a coûté. Quelqu'un a dit un jour que dans le ciel, dans l'éternité, la seule chose qui restera... de la terre, c'est les marques dans les mains de Jésus. Vous voyez, les marques dans les mains de Jésus. Mais je me dis, mais pff, Seigneur, ça nous pousse à bénir le Seigneur. Et c'est pour ça que quelque part, je me dis, nos réunions, ce n'est pas des enterrements, c'est des moments de joie. Quoi, parce que quand on réalise ce que le Seigneur a fait pour nous, quand on réalise le prix du rachat, je ne veux pas banaliser la grâce de Dieu. C'est tellement important, vous voyez. Bénir Dieu chaque jour et dire « Seigneur, mais sers-toi de moi ». D'ailleurs, tout à l'heure, voilà, merci, tu me l'as laissé, en parlant de réinvestir notre vie, mais regardez, ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Ils devront toujours se souvenir de ça. Et l'enfant de Dieu, ben c'est ça, le chrétien, c'est ça. Mais tous les jours de sa vie, même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, tout, il doit se souvenir qu'un jour le rachat a eu lieu. Alléluia. Le rachat de notre personne. Parce que le jour où on se présentera devant Dieu, tout le reste, ça s'effacera. Hein. Tout ce qu'on aura fait, machin, bon, bien sûr, il y aura les récompenses et tout ça. Mais s'il n'y a pas le rachat à la base, ça ne servira à rien. Hein. Ça ne servira à rien. Alors moi, je veux bénir le Seigneur de ce qu'un jour il m'a racheté. Il nous a sauvé. Quelle grâce! Ce soir, j'espère que les uns et les autres, je termine, on peut tous dire, Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as racheté, tu m'as lavé, tu m'as pardonné. Je réalise ce que j'étais et Seigneur, tu es venu me chercher. Je n'étais pas meilleur qu'un autre. Mais Seigneur, tu as fait cette œuvre extraordinaire. Et si ce n'est pas fait, ben, c'est l'occasion que Dieu nous donne parce que personne n'est exclu de ça. Et c'est encore, à la porte de la grâce, elle est encore ouverte. Alors, je parlais de la porte de Noé, de l'arche de Noé, vous rappelez que c'est Dieu qui a fermé la porte. Hein. Ce n'est pas Noé qui l'a fermée. Ça nous rappelle qu'un jour, la porte de la grâce se fermera. Mais encore aujourd'hui, le rachat, si ce n'est pas fait, il peut avoir lieu. Et quant à nous, pour nous les enfants de Dieu, ben bénir le Seigneur, dire « Seigneur, tu m'as racheté, quelle grâce !» Waouh, quelle grâce. Je n'étais pas meilleur. Alors je termine. Je crois que, vous savez, le jour, quand on voit certains textes, le jour où on se présentera devant Dieu, je ne sais pas comment ça sera, j'essaie de m'imaginer ça, mais je me dis que peut-être il y aura des surprises. Hein. Quand Jésus dit « les premiers seront les derniers seront les premiers », vous voyez, il y a des textes quand même, ça fait un peu réfléchir. Voyez, je me dis, vous voyez, alors bon, on ne va pas se prendre la tête. Hein, mais enfin, ça vaut quand même la peine de se dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi, voyez, où est-ce que j'en suis avec toi? Alors, merci Seigneur pour la croix. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on puisse reprendre ce chant. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Le dernier chant qu'on a chanté. Mais voilà, ce soir, j'avais à cœur de remettre ces choses devant nos yeux. Parce qu'on le sait, on le connaît, mais... Et des fois, la vie fait qu'on est tellement pris par tout un tas de choses que c'est bon de se remémorer ça. Pour les croyants, se remémorer qu'un jour, notre rachat, il a eu lieu. Et quelle grâce, et bénir tous les jours Dieu pour ça. Je ne veux pas passer un jour sans bénir Dieu de ce qui m'est racheté. Et puis peut-être pour celui qui n'a pas encore fait ce choix-là, bah dire Seigneur, encore aujourd'hui, c'est jour de salut pour moi. Et que Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu me laves. J'ai besoin que je veux avoir cette certitude que je t'appartiens. Parce que j'ai commencé par là, je finis par là. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. Donc, on ne pourra pas le tromper. Hein, on ne pourra pas le tromper. Les contrefaçons, il n'y en aura pas hein, dans le ciel. Hein, la contrefaçon. Ça ne passera pas. J'allais dire, c'est comme dans les aéroports, au portique ça va sonner. Hein. Au portique ça va sonner. Alors Seigneur, Seigneur. Alors ce soir, ben, c'est l'occasion de bénir Dieu encore. Et dire Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Et si peut-être pour quelqu'un encore, ce n'est pas encore clair, ben, de dire Seigneur, je n'ai peut-être pas tout saisi, mais Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur pour que tu me laves, tu me sauves et que tu fasses de moi ton enfant. Alléluia.